sur le Cantique des Cantiques. Je n'envie pas ces âmes, et leur cas me paraît sujet à caution. Celles qui ont beaucoup à lutter progressent davantage et possèdent dans la prière tout autant de clairvoyance pour juger des questions de perfection en la mesure possible ici-bas. Sans parler des âmes déjà mortes au monde, mortifiées et améliorées par de longues années de lutte, d'autres, moins avancées, possèdent également la paix. Mais c'est toujours en ressentant vivement leurs erreurs et en en souffrant beaucoup. Vous le voyez, mes filles, Dieu nous conduit par mille voies différentes, ce qui, je le répète, ne m'empêche pas d'être très effrayée quand vous ne sentez pas une faute commise. Tout péché, même véniel, doit blesser profondément votre cœur. Il en est ainsi, j'en suis sûre, n'est-ce pas ? Et j'en rends gloire à Dieu. Notez bien ceci, et souvenez-vous-en pour l'amour de moi. Une personne vivante que l'on pique, tant soit peu avec une épingle ou avec une petite aiguille, si fine soit-elle, le sentira vivement. Eh bien, si l'âme n'est pas morte, et si l'amour divin vit en elle, c'est une grande grâce qu'elle reçoit en ressentant de la même manière la moindre faute contraire à la règle ou au devoir. Quel nid de roses et de fleurs ne prépare-t-elle pas ainsi à sa majesté ? Dieu ne peut tarder à venir se réjouir en elle. Ô Seigneur, que faisons-nous d'utile dans les monastères, malgré l'abandon du monde ? Dans quel but y sommes-nous ? Comment employer notre temps plus utilement qu'en préparant à notre époux un séjour dans nos âmes ? Car n'est-il pas réellement notre époux depuis le jour de notre profession ? Que les âmes scrupuleuses ne me comprennent pas mal. Je ne parle pas de fautes clairsemées ou de fautes à peine certaines dont on ne s'aperçoit pas toujours. Il s'agit de ceux qui pêchent très régulièrement sans y prendre garde, avec désinvolture, sans éprouver de remords ni essayer de se corriger. Je répète que c'est là une dangereuse paix. Vous voilà bien avertis. Qu'en sera-t-il de celles qui mettent un grand relâchement dans l'observation de la règle ? Plaise à Dieu qu'il n'y en ait aucune parmi vous. Le démon leur procure toutes sortes de paix trompeuses, et Dieu le laisse faire en punition de nos péchés. Mais ceci sort déjà du sujet, et je voulais seulement vous le signaler. Parlons plutôt de l'amitié et de la paix que nous laisse déjà sentir le Seigneur dans la prière. Je dirai ce que Sa Majesté me suggérera. Et d'abord, il est utile de bien vous faire connaître la paix que procure le monde et la sensualité. Bien que cela ait été très souvent écrit, mieux que je ne saurais le faire peut-être, n'auriez-vous pas de quoi acheter des livres, car vous êtes pauvre, et peut-être aussi ne connaîtriez-vous personne qui vous en fasse l'aumône. Ces lignes restent à votre disposition dans la maison et vous y trouverez tout ensemble. On peut se laisser prendre de bien des manières à la paix que procure le monde. J'en citerai quelques-unes propres à beaucoup nous peiner, nous qui, par notre faute, n'atteignons pas à l'amitié parfaite de Dieu et nous contentons de trop peu de choses. Nous ne pensons pas, Seigneur, à la grandeur de vos dons et à l'éternité de vos récompenses. Nous oublions que si votre amitié est entière, ces récompenses et ces dons nous sont assurés en ce monde même et que beaucoup restent au pied de la montagne qui pourrait en gravir le sommet. Dans quelque autre écrit, je vous ai déjà dit cela, et je vous le répète ici, vous êtes jurant d'avoir de l'espérance et du courage dans le cœur. Cela amènera le Seigneur à soutenir vos actions, croyez-moi. Il y a donc des gens qui avaient obtenu l'amitié du Seigneur pour s'être bien confessés et sincèrement repentis de leurs fautes, mais 2 jours sont à peine écoulés qu'ils y sont revenus. Voilà bien une amitié et une paix différentes de celles que demande l'épouse. Ô mes filles, gardez-vous d'aller trouver le confesseur pour toujours répéter la même chose. Je sais bien que nous ne pouvons vivre sans commettre de péché, mais du moins que ce ne soit pas toujours les mêmes, afin d'éviter qu'ils ne s'enracinent davantage. Il serait plus difficile à combattre par la suite. Et des racines que vous avez laissées, il naîtrait encore d'autres misères. Si nous mettons en terre une plante ou un arbuste, l'arrosant chaque jour, il deviendra si vivace que pour l'arracher, il faudra se servir de la pelle et de la pioche. Il en est ainsi lorsque nous commettons régulièrement la même faute, toute minime qu'elle soit, sans travailler à nous corriger. En combattant, au contraire, à chaque occasion, nous en viendrons à bout. Prions le Seigneur, car par nos propres moyens, nous pouvons seulement devenir plus faibles. Et lors du terrible jugement, le jour de la mort, notre négligence nous accablerait, nous surtout que le juge a choisi pour épouse en ce monde. Ô grandeur du Très-Haut, si bien faite pour nous ouvrir les yeux et augmenter notre crainte. Mes filles, contentez votre Seigneur et votre Roi, car les personnes dont je viens de parler sont bien ingrates, en devenant si facilement ses ennemis après s'être rapprochées de lui. Je sais que la miséricorde divine est grande. Quel ami serait aussi patient que Dieu ? Ici-bas, ceux qui se sont séparés une fois ne s'unissent plus jamais avec la même sincérité ni la même foi. Envers notre Seigneur, au contraire, nous sommes si souvent infidèles, et malgré cela, il attend patiemment notre retour tant d'années. Soyez bénis, ô mon Dieu, qui nous conduisez avec cette douceur. Vous paraissez oublier votre puissance pour ne pas châtier, comme vous le pourriez à bon droit, les traîtres que nous sommes. L'état d'âme que je dépeins ici est grave, car si la miséricorde divine nous paraît illimitée, nous voyons aussi d'autre part beaucoup de gens mourir sans confession. Que Dieu vous garde dans sa bonté d'une pareille disposition de cœur. Il est un autre pacte avec le monde de nature moins mauvaise. C'est l'état des personnes qui s'efforcent de ne point offenser le Seigneur mortellement. Elles ne sont déjà pas si nombreuses par les temps qui courent. Et du reste, bien qu'elles se défendent du péché mortel, elles ne laissent pas de temps en temps d'y succomber à ce qu'il paraît. En ne tenant pas compte des péchés véniels, même multipliés dans la même journée, elles se trouvent tout près du péché mortel. Les unes vous diront « Faut-il donc faire cas de si peu ?» Les autres « C'est pour cela que sont faits l'eau bénite et les remèdes de l'Église Notre Mère. » On voudrait en pleurer. Pour l'amour de Dieu, mes filles, prenez bien garde de ne jamais commettre de péché véniel, quelque léger qu'il soit, en vous servant de pareilles excuses, car c'est une bien grande chose que d'avoir toujours la conscience assez pure pour pouvoir, sans obstacle, implorer de notre Seigneur la parfaite amitié que demande l'épouse. Cette amitié n'est pas chancelante comme celle dont nous venons de parler. Amitié bien douteuse pour beaucoup de raisons. Amitié qui donne des joies plus troublantes qu'utiles. Amitié de tiédeur, où l'on ne sait plus trop si le péché commis est véniel ou mortel. Que Dieu vous garde de cet état. C'est en se figurant que l'on n'a pas, comme d'autres, de grands péchés sur la conscience, que l'on finit par tomber dans cette fausse paix. Nous manquons d'humilité en trouvant beaucoup de malice chez les autres, quand ils sont peut-être meilleurs que nous. Précisément parce qu'ils pleurent leurs péchés avec un grand repentir et plus d'efforts vers le bien, ils arrivent à ne point offenser Dieu du tout. Ceux qui pensent ne rien faire de grave se donnent plus de liberté dans les jouissances. La plupart du temps, ils ne prient que des lèvres et leur conscience manque de délicatesse. Il est une sorte d'amitié divine et de paix du cœur dont notre Seigneur accorde les prémices à des personnes bien résolues à ne l'offenser en rien, mais qui ne s'éloignent pas assez des occasions de péché. Bien qu'elles aient fréquemment des élans de ferveur et que notre Seigneur leur donne la tendresse et les larmes, elles ne voudraient pas quitter les joies humaines. Elles cherchent à régler leur existence de telle sorte que la piété semblerait presque pour elles un élément nécessaire de bien-être. Cependant, notre vie est remplie de bouleversements. Il est bien rare que ces gens persévèrent dans la vertu. Ne fuyant pas les joies et les plaisirs du monde, ils faiblissent vite sur le chemin du Seigneur où de grands ennemis sont toujours prêts à barrer le passage. Ce n'est point là, mes filles, l'amitié que désire l'épouse et celle que vous recherchez. Fuyez toujours la moindre occasion de péché, si vous voulez vivre en sûreté et voir grandir votre âme. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez le danger de ne pas vous éloigner avec décision des choses du monde, source beaucoup de fautes et de beaucoup de peines. Notre Seigneur commence à se lier avec les âmes par tant de moyens différents que je n'en finirais pas si j'énumérais tous ceux que j'ai notés en simple femme. Que diront donc les confesseurs et les personnes habituées à traiter intimement les âmes? Avec cela, certains cas me déconcertent où rien ne semble manquer à la parfaite amitié de Dieu. Je vais vous conter l'histoire de quelqu'un que j'ai dernièrement beaucoup fréquenté. C'était une femme aimant à communier fréquemment et ne médisant jamais de personne. Ses prières étaient pleines de tendresse. Elle vivait solitaire, toujours enfermée chez elle, et son caractère était si doux qu'aucun propos ne pouvait exciter sa colère, ce en quoi elle montrait cette rare perfection. Jamais elle ne prononçait une mauvaise parole. Elle ne s'était pas mariée et avait passé l'âge de le faire. Elle avait enfin beaucoup souffert sans révolte. Je voyais tout cela. Son âme me paraissait très favorisée, douée du don de la prière, et je l'appréciais beaucoup au début, ne l'en voyant pas offenser Dieu, mais toujours au contraire se préserver avec soin. Je le devinais bientôt, cependant, les choses allaient ainsi tant qu'elle n'était pas en jeu elle-même. Mais sa personne atteinte, sa conscience était loin d'être sans reproche. Tout en acceptant ce qu'on lui disait, elle demeurait pénétrée de sa propre estime et sa curiosité était telle que je me demandais avec stupéfaction comment une femme pareille pouvait demeurer seule une heure. Elle aimait sa quiétude, dorant tout ce qu'elle faisait et l'exemptant de péché. D'après les bonnes raisons qu'elle donnait, il y aurait eu injure à la mal jugée. Quelquefois cependant, on sentait bien sa peau faute, et peut-être elle-même ne se comprenait-elle pas. Elle me déroutait. Presque tous la prenaient pour une sainte. Je compris qu'elle n'était pas sans avoir un peu provoqué les persécutions dont elle parlait, et je cessai d'envier sa béatitude. Cette âme et deux autres que j'ai rencontrées au cours de ma vie et dont le souvenir me revient en ce moment, m'ont inspiré plus de crainte avec leur sainteté que toutes les autres pécheresses. Suppliez le Seigneur de nous éclairer, mes filles, et bénissez-le de vous avoir conduites dans des monastères où le démon, malgré ses efforts, ne peut tromper autant que dans les foyers privés. On dirait qu'il y a des âmes auxquelles il ne manque rien pour s'envoler au ciel, tant elles se croient sur le chemin de la perfection. Mais qui peut les comprendre? J'y suis parvenue dans les monastères parce que là, il faut obéir et non pas s'écouter. Dans le monde, malgré la résolution de se bien connaître et de plaire au Seigneur, on ne peut voir aussi clair, puisqu'en fin de compte, on suit sa propre volonté et que malgré quelques contrariétés, on ne se mortifie pas autant. Je ne parle pas de certaines personnes instruites par notre Seigneur pendant de longues années. Celles-là savent trouver qui les comprennent et les dirigent. La véritable humilité comporte peu de confiance en soi. Et plus la science est grande, plus on se soumet au jugement d'autrui. Il est d'autres personnes qui ont tout quitté pour le Seigneur. Maison, domaine, présent, important et toutes les autres choses du monde. Elles font pénitence. Le Seigneur leur a fait voir leur misère. Et cependant, elles conservent le point d'honneur et ne voudraient rien faire qui ne plût également aux hommes et à Dieu. Ô prudente discrétion ! Les deux souhaits sont incompatibles et le mal est si grand que, sans s'en apercevoir elles-mêmes, elles prêchent le monde plus que le ciel. Ces âmes, pour la plupart, souffrent de la moindre critique. Même la vérité les trouble. Elles n'embrassent pas la croix, elles la traînent, de sorte que la croix les blesse, les fatigue et les déchire. Si la croix est aimée, elle est douce à porter. À ce sujet, il n'y a aucun doute. Ce n'est point là encore l'amitié que demande l'épouse. Donc, mes filles, ouvrez bien les yeux. Vous avez fait le vœu que j'ai dit en commençant. Ne vous attardez plus distraitement dans le monde. Tout y est souci pour vous qui avez déjà renoncé avec lui aux jouissances, aux plaisirs, aux richesses et à leurs fausses consolations. Que craignez-vous? Ne savez-vous pas qu'en échange d'une faveur passagère et en voulant contenter les gens du monde, vous allez vous charger de soins et d'obligations si nombreux que je ne pourrai achever de les énumérer? Du reste, je m'en sens incapable. Il y a enfin des âmes, et je finis par là, chez lesquelles vous trouverez, si vous êtes perspicace, beaucoup de signes d'amélioration. Cependant, elles s'arrêtent à mi-chemin. Si elles dédaignent l'estime des hommes et leurs honneurs, elles ne savent pas se mortifier et renoncer à leur propre volonté. Le monde semble ne pas pouvoir s'arracher de leur corps. Elles paraissent sanctifiées, prêtes à tout souffrir, mais l'honneur de Dieu venant à nécessiter l'immolation du leur, elles sacrifient plutôt celui-là sans hésiter. Elles ne s'en rendent pas compte. Elles croient que le monde ne les effraie plus et qu'elles craignent vraiment le Seigneur. Cependant, elles ont peur de tout et tremblent qu'une bonne action ne vienne à les gêner. On dirait que le démon les conseille et elle scrute l'avenir en véritable prophétesse. Ah, ce ne sont point celles-là qui se jetteront à la mer comme saint Pierre ou suivront tant d'autres saints qui jouèrent repos et vie pour les âmes. Au milieu de leur tranquillité, elles veulent amener les autres au Seigneur. Cependant, comme elles ne risquent rien, la foi elle-même leur sert à peine, et toujours elles suivent leur propre volonté. J'ai remarqué que l'on voit peu de personnes dans le monde, dehors de la vie religieuse, remettre à Dieu le soin de leur vie. J'en connais deux en tout qui ont cette confiance. En religion, nous savons bien que l'assistance divine nous est assurée. Mais celle qui entre véritablement au monastère pour Dieu seule ne devrait pas songer à ces choses. Combien y en a-t-il cependant, mes enfants, qui n'équittent ce qu'elles ont que parce qu'elles sont sûres de ce qu'elles trouveront. Ailleurs, j'ai beaucoup parlé de ces cœurs pusillanimes, de leurs maux et du bienfait des grandes aspirations à défaut de grandes œuvres. Je n'insisterai donc pas ici sur ce sujet dont je ne saurais me lasser. Dieu vous